dans la suite de mon étude sur Esther il y a quelques mois, je ne vais pas poursuivre dans Esther, mais un texte parallèle. Et puis, je voudrais vous faire quelques clins d'œil, parce qu'on est quand même... on a besoin aussi de s'alléger un petit peu, parce que je vous propose Romains 8, et Romains 8, c'est vraiment un texte doctrinal. Et j'ai envie qu'on l'étudie ensemble, comme si c'était vous qui prenez votre Bible et dites, voilà, je vais étudier Romains 8. Vous n'êtes pas des théologiens, moi non plus. Comment faire ? Et en plus, Romains 8, c'est un texte parallèle qui nous aide à comprendre Esther. Et si on reviendra ensuite sur Esther, ça nous permettra de comprendre des choses. Alors, je vais commencer par deux petits clins d'œil. C'est pour ça que j'ai besoin d'un lutrin plat, parce qu'il y a quelques petits accessoires. Je suis prêt, mais tu n'es pas obligé de projeter pour l'instant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va donc parcourir ensemble le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles, mais on ne va pas les lire tout de suite. Et en préambule, deux images, deux petits clins d'œil. Alors le premier, c'est à propos de... Donc je vais d'abord prendre un petit objet qui est en fait, c'est une paille, mais qui figure la houlette, le bâton de Jésus, enfin, je dirais, vous rappelez le psaume 23, où il est dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous allez me dire, mais ce n'est pas cette taille-là. Mais je voudrais le ramener à mon personnage. J'ai un petit personnage, donc la paille, là, vous voyez, c'est plus dans la taille. Alors, je voudrais rappeler deux choses, puisqu'on va étudier un texte un peu compliqué, et en même temps où il y a des choses que vous connaissez très bien. C'est de dire, bon, est-ce qu'on a besoin vraiment d'étudier des textes aussi compliqués ? Est-ce qu'on a besoin, finalement, qu'est-ce qui justifie qu'on ait besoin d'étudier tous les jours la parole ou de la méditer ? Et je dirais, je citerai deux passages. Le premier, c'est dans Daniel 10, il est dit... Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et deuxième passage, c'est celui de Jésus qui dit dans Marc 11, 22, il dit « Tenez, saisissez la fidélité de Dieu ». Alors la plupart d'entre vous ont dedans « Ayez foi en Dieu bon, ». Mais la vraie traduction, vous disant la traduction littérale, c'est « Tenez, saisissez la fidélité de Dieu ». Alors je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Et puis, autre passage qui me semble important, c'est dans Malachie. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Oui, ça c'est dans Malachie 3, verset 2. C'est dans Daniel 10, 11. Donc, je prends mon personnage et je dis, nous avons besoin d'être debout. Bon, personne ne va me contredire en disant, oui, à la romaine, on va se mettre, parce qu'on va étudier romain, on va se mettre, n'est-ce pas, allongé, et on va faire comme les romains qui mangent allongé. Non, vous devez être debout. Seulement, vous avez remarqué mon personnage. Il a les mains dans les poches. Donc, quand Jésus lui tend la houlette et le bâton, il ne tient plus debout. Deuxième chose, c'est que si vous êtes debout et que le sol se dérobe sous vos pieds, vous tombez. Alors, quelle est la solution ? Ben, la solution, je vous l'ai dit avant, la solution, c'est de sortir sa main de sa poche et de dire, pour saisir la houlette ou le bâton qui me rassure, voilà. Bon, c'est tout, hein, c'était juste un petit clin d'œil. Deuxième clin d'œil, finalement, moi je vous demande ce matin, je vous dis, attendez, vous êtes en tant que, je dirais qu'adorateur de Jésus, en tant que attiré par Jésus, en tant que déjà mûrs en Jésus, est-ce qu'on doit vraiment, en plus, tous les jours, lire sa parole et puis en plus se taper des textes aussi compliqués que Romains 8? Parce que pour certains d'entre vous, bon, c'est vrai que Romains 8, c'est du concentré. Vous savez, on voudrait bien le délayer et faire comme pour le sirop, tout l'été, rajouter un litre d'eau chaque fois. Mais là, non. Et il se peut qu'à un moment donné, on ne vous parle pas d'un thème. La semaine dernière, on parlait d'un thème, on parlait de la paix. Aujourd'hui, je dis qu'à certains moments, on a besoin aussi d'étudier des morceaux de la Bible, et pas juste un verset, ou pas juste un thème, où on reprend l'ensemble de la parole. Donc, deuxième clin d'œil, avant de passer à Romains 8, c'est de vous dire comment est-ce que je fais, moi, qu'est-ce que je vous propose, non pas une méthode théologique, mais une méthode, on va dire, pratique. Et là, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode Seb. Alors, je ne sais pas si tu peux nous projeter. Vous connaissez tous Seb? Non, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Voilà. Séquence publicité. Seb, c'est bien. Alors, il y en a certains qui doivent penser, ça y est, honte. Même à l'église, il y a de la pub. Non. Ça, c'est un détournement. Alors, quand vous regardez une coco de Seb, vous voyez quoi? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, elle n'est pas très... Bon, il y a un couvercle. Une soupape, oui, d'accord. Bon, ça sera à la fin quand on a étudié un texte. Il y a deux poignées, et puis il y a la devise, Seb. Donc moi, je m'appuie là-dessus, et ça vous servira peut-être à retenir la méthode. Quand on médite, on étudie un texte chez soi, finalement, la chose qu'il faut faire, c'est d'abord prier. C'est la première poignée. Pour prendre la cocotte, il faut prendre deux poignées, parce que vous ne pouvez pas la prendre, c'est quand même chaud, hein. Donc, priez, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous ouvrir l'intelligence et le cœur par rapport au texte que vous allez étudier. Bon, ce n'est pas besoin de prendre des heures, hein. Mais en tout cas, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. Deuxième chose, deuxième poignée, c'est parcourir le texte. Alors, ça paraît évident, mais il ne s'agit pas de prendre un commentaire du texte pour le lire, le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lisez le texte, et qu'est-ce que vous allez faire? À ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre d'obstacles. Et là, on arrive à la méthode Seb. Un, c'est s'interroger sur le contexte. Avant, après, qui... ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Quels étaient les destinataires, si c'est une lettre? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que c'est un texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Est-ce que c'est une chronologie? Etc. Ensuite, on s'interroge sur le sens des mots difficiles. Et on n'hésite pas à aller dans un dictionnaire, parce que si vous lisez un texte et puis qu'il y a un mot que vous ne comprenez absolument pas, bah, le mieux c'est quand même d'aller dans un dictionnaire. Et de ne pas éventuellement utiliser une autre version, et ça je dirais, là je parle vraiment à nous, chrétiens de base, hein, je ne parle pas là des spécialistes, mais je veux dire, au moins avoir deux ou trois versions chez soi, ça ne coûte pas très cher. Pourquoi ça? Alors des versions qui ont des textes un peu écrits autrement. Ce que n'avaient pas nos ancêtres il y a 150 ans, puisqu'ils avaient en général qu'une version ou deux. Nous, on est aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 10 versions. Alors, ce n'est pas ce que je vous demande, mais avoir une version littérale, avoir votre version préférée. Voilà. Et donc, ça, c'est le S de Seb. Ensuite, se laisser éclairer par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, quand vous lisez ce texte, après avoir un peu enlevé tous les petits les mots difficiles, n'hésitez pas à vous dire, là, il y a quelque chose qui me frappe. Alors, qui me frappe, ça peut être en bien, s'illuminer, ça me parle, ou alors ça m'agace, ça m'interpelle, ça me dérange. J'ai envie de passer à autre chose. Et troisièmement, vers quel but, action, mise en pratique, quelle direction m'indique le texte? Ce sont des questions à se poser. Vous ne lisez pas votre Bible pour juste vous instruire et dire, bon, ben, ok, j'ai rempli un peu plus mon cerveau d'une certaine connaissance. Et peut-être qu'aujourd'hui même, ça ne vous parle pas, mais que demain, vous allez faire le lien. Et surtout, et je crois que c'est là que c'est important, ne croyez pas que toute votre connaissance de la parole va part de cela. Parce que ça va vous permettre de comprendre mieux si vous avez des prédications, si vous avez des explications, si vous avez des lectures. Mais vous ne pouvez pas vous passer du texte. On ne peut pas lire que le commentaire perpétuellement de la parole, ou même l'avis d'un tel ou d'un tel. Et ça, n'oubliez pas, dans les Actes, à un moment donné, on entend dire qu'ils allaient le soir, après les prédications, relire dans la parole pour voir si ce qu'on leur avait dit était exact. Donc ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous dire, n'oubliez pas la méthode Seb, hein, les 5 points pour lire la parole. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons... Alors avant, peut-être, oui, je vais quand même vous montrer. Donc j'avais, moi, j'ai toujours dans ma Bible un petit... c'est en petit, hein, c'est pas aussi grand. Je dirais, sur une feuille de papier, j'ai ces 5 signes qui sont en fait tout simplement la même chose que ce que je viens de dire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un personnage qui prie, puis vous avez des traces de pas, pour illustrer le deuxième point. Puis vous avez un point d'interrogation. La lumière, c'est la bougie. Et en dernier point, la cible, le but. Ça, j'ai depuis une 30aine d'années dans ma Bible parce que je m'en servais dans l'école du dimanche pour savoir quoi, bah oui, dans quel ordre je dois prendre les choses. Alors, le texte que... Donc, prenons-le un peu dans ce sens-là, ce texte de Romains 8. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Alors, je vais peut-être mettre ça un peu plus loin. Alors, pour étudier ce texte, nous avons besoin de savoir si ce texte, finalement, si on prend Romains 8, bah, c'est le 8e chapitre de Romains, donc ce n'est pas le début. Et une lecture, donc savoir qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après, c'est quand même important. Alors vous avez plusieurs manières de vous faire aider, hein. Vous pouvez lire donc, le passage que vous voulez étudier, mais c'est clair qu'il faut jeter un œil à ce qu'il y a avant. Donc la lettre aux Romains, les signataires c'était des chrétiens, les chrétiens de Rome. Le type, c'est une lettre, c'est une épître. C'est pour certains d'entre vous, ce sera un peu moins facile que de lire une histoire ou de lire un poème, hein, un psaume par exemple. C'est pas pour rien que les psaumes, vous savez, on dit toujours que étudier la Bible, c'est comme manger un poisson, on commence par le milieu, on ne commence pas par la tête ni par la queue, hein, puisque c'est les parties quand même. Alors donc au milieu, il y a les psaumes. Donc c'est assez facile à manger, mais bon, les Romains, c'est un peu plus, faire des parties un peu plus difficiles. Donc, c'est un texte en plus doctrinal, ce qui veut dire que c'est un texte en fait où il y a expliqué une doctrine. Alors dans Romains du chapitre 1 au chapitre 11, c'est une partie doctrinale, et ensuite il y a une partie pratique du chapitre 12 au chapitre 16. Et le thème de cette première partie doctrinale, c'est en fait le plan de salut. Donc on est quand même au cœur aussi, au cœur de l'évangile, hein, le plan de salut de Dieu, expliqué sur 11 chapitres. Et dans la deuxième partie, c'est plutôt des exhortations concernant les devoirs du chrétien, donc... ce qui est fréquent dans les lettres de Paul. Hein. Mais là, c'est assez clair. Vous avez une première partie et une deuxième partie. Et donc, le chapitre 8, c'est un peu le point culminant du plan divin du salut qui est décrit dans ce chapitre. Il s'agit donc, pour décrire en gros l'esprit de ce chapitre, la description d'une vie nouvelle, faite de liberté, de justice. Alors, si on regarde un petit peu les commentaires des uns et des autres, on sent quand même que c'est un des grands chapitres spirituels de la Bible. Et quand on regarde la plupart des églises et des dénominations, on a des versets qu'il faut savoir par cœur. Donc, en gros, on revient toujours à peu près la même 30aine de versets qui sont considérés comme étant des versets importants. Dans Romains, il y en a 4 sur 25. Et dans Romains 8, il y en a 2. Donc, si on voulait donner un faisceau d'importance ou d'indice pour dire est-ce que c'est un chapitre important, oui, on peut déjà dire que c'est quelque chose d'important. Bien. Maintenant, si on en vient à la lecture, alors, on ne va pas le lire ensemble, on passerait trop de temps, mais on va quand même venir sur chaque point. Donc quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dit « Oulala, quelle est la structure ? Qu'est-ce que... » Il revient sur plein de choses. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il y a 6 paragraphes qui sont de longueur inégale. Et quand on survole le texte une première fois, on se dit « Tiens, ce qui nous frappe, c'est alors les deux versets qui sont connus. Hein. Par exemple, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il est très connu. Et le premier, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et ces versets importants et qui sont très connus peuvent même être pour nous un piège, un peu comme, vous savez, une ornière dans laquelle on revient. Est-ce que c'est tout ce que veut dire Paul ? Est-ce que c'est vraiment son message ? Alors je vous ai dit avant que c'est un peu le point culminant du thème doctrinal de Romains, chapitre 1 à 11. C'est un peu le summum de qu'est-ce que c'est que le plan de salut ? Conséquence. Et moi j'ai vu qu'il y a 6 paragraphes, et en plus de ça, il y a 4 dons. C'est vraiment des choses qui sont données. Comme ça, on peut l'interpréter, mais vous pourrez en juger par vous-même, par Dieu aux hommes. Alors le premier paragraphe ou le premier thème, c'est en gros du verset 2 au verset 9, où on pourrait résumer ce paragraphe par la culpabilité et la puissance du péché, qui sont déjà traités dans d'autres chapitres avant. Ensuite, au verset 10 à 13, on parle plutôt de la réalité de la mort. Et donc on en vient dans le plan de salut. C'est une chose qui est à souligner, quel que soit d'ailleurs l'auteur qui en parle. Dans le plan de salut, il y a une chose qui est importante, c'est de se souvenir que la réalité de la mort, c'est une chose qu'aujourd'hui, dans notre société, on oublie complètement. On la voit même plus. La mort physique, on la cache. Mais en plus, la mort spirituelle, c'est absent. Et là, il ne faut pas juste se focaliser sur les versets qui sont très connus, qui sont des versets positifs, hein, c'est forcé. Celui d'adoption, celui de « que toute chose coopère au bien » au verset 28 de ceux qui sont appelés selon son dessein, où il n'y a maintenant aucune condamnation. Il est quand même rappelé dedans cette réalité de la mort du verset 10 au verset 13. Puisqu'à un moment donné, il y a quand même des avertissements. Il dit « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous ». Il dit bien « Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché ». Il parle de nos corps mortels. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Il n'est pas dit vous allez peut-être mourir. Vous allez mourir. Et je continue. C'est-à-dire que quand on lit ces versets 1 à 30, donc on a ces deux paragraphes, la culpabilité et la puissance du péché, la réalité de la mort. Ensuite, verset 14-15, la terreur d'avoir à affronter Dieu et son jugement. Au verset 17 à 25, la défaillance et le désespoir face à la souffrance. Il dit, à un moment donné, au verset 20, car la création était soumise à la vanité, non son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, je pense à la chute d'Adam, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons, verset 22, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas une blague. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Si vous regardez ce qui il suffit de quelques petits changements et on se met tous à souffrir. Hein. On a un été qui est un peu pourri, on a un peu trop d'eau, pas assez de chaleur. Et hop, on a l'impression que tout fout le camp. Et ces équilibres qui sont tellement... On est finalement des créatures fragiles. On est comme il est dit dans les proverbes, dans les psaumes, comme de l'herbe. Comme de l'herbe qui sèche au moindre... À moins de sécheresse. Alors vous allez me dire, oh là là, mais chapitre 8, purée, jusqu'à présent. Il y a encore un autre thème qui est traité au verset 26, à partir du verset 26. L'ignorance paralysante dans la prière, qui ne l'a pas à un moment donné. Expérimenté. Il dit bien au verset 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est qu'il y a bien une faiblesse, si le Saint-Esprit est obligé de venir au secours de cette faiblesse. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et enfin, il traite du thème du sentiment d'absurdité et d'inutilité dans la vie. Alors comment ça? Alors c'est moi qui l'ai écrit comme ça. Mais quand vous regardez ce qui est dit ensuite au verset 28-30, on ne sait pas si... on n'a pas toujours une idée du sens des choses. On ne sait pas... On se rend compte qu'il y a des choses qui nous échappent. Et si Jésus ne vient pas donner un sens à notre vie, il y a des tas de choses qui nous échappent. On se dit, mais pourquoi telle personne est partie? Pourquoi tel événement, telle maladie arrive? Pourquoi notre pays ne s'en sort pas à un moment donné? Ou au contraire, pourquoi il y a tellement de succès pour ceux qui fraudent? Je ne sais pas. On peut se poser 1000 questions. Et je pense qu'on se les pose tous à un moment ou à un autre. Alors, quelle est la réponse qui est évidemment dans le même texte, en filigrane? Quelle est la réponse? Elle est pratiquement chaque fois donnée. Alors, dans ce plan, ce que nous propose Paul, mais qui est directement la proposition, finalement, c'est Saint-Esprit qui lui a soufflé ces mots. D'abord, il nous propose, et je vais m'expliquer là-dessus, un statut, une dynamique, une identité et un sauf-conduit. Tout ça dans un même chapitre, que vous allez retrouver dans la parole, dans le Nouveau Testament, maintes fois. Alors, c'est quoi ce statut? Ce statut... C'est la justice. C'est-à-dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation. La deuxième, c'est le don de l'Esprit. À plusieurs fois, il dit que l'Esprit vient à notre secours. Soit dans nos prières, soit pour nous souffler ce que nous devons faire, soit tout simplement pour dire, voilà, soyez rassurés, l'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 9. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'être debout, c'est ce qui nous permet de tendre la main et de croire que la houlette et le bâton sont là pour nous préserver. Et je dirais que je pense un petit peu, vous savez, quand on a le bras levé et puis qu'on tient juste ça, il y a des moments où on est dans le brouillard complet, on ne voit pas ce qui nous arrivera demain, La seule chose qu'on tient, c'est la main de Jésus. Hein. T'es pas d'accord, Michel? Hein? On a l'impression, dans certains moments, on n'a que ça. On est comme dans ces bus, vous savez, où on est brinque-ballé, là, puis on tient en haut la barre, et puis on ne sait pas si on va se casser la figure, sauf que dans le bus, il n'y a pas de brouillard. Hein. Mais bon, ce serait un bus dans le brouillard, complet, et puis on n'a que ça. Et c'est ça la situation des fois du chrétien. Et alors, il y a une chose merveilleuse, c'est l'identité. C'est quoi l'identité? Ça, c'est dans le verset 15. On a reçu un esprit d'adoption. On est des fils, des filles. Et chaque fois, ce don est en réponse par rapport aux interrogations moroses que je vous ai citées tout à l'heure. Donc on a une identité, on est enfant de Dieu. Fils et filles, héritiers. On a l'esprit qui travaille en nous, qui est en nous, qui habite en nous. Et qui donc, je vous rappelle un certain nombre de prédications du début d'année, là, à propos de la persévérance, vous savez, cette doctrine de la persévérance des saints, que nous avait expliqué Luc, où finalement, on a cette paix que, même assaillie de toutes parts, même ébranlée par, je sais pas, des tas de choses. Et des fois, cet ébranlement, il va venir de n'importe où. Je peux vous raconter un témoignage personnel. Moi, j'ai perdu mon père au mois de mai. Je me disais, bon, ben, très bien, il était âgé, il avait une vie, je dirais, quelque part remplie. Il a disparu en quelques semaines, pas de souffrance pendant des années. Et c'était un homme de foi, un homme qui m'avait apporté... Mais en même temps, c'était un homme qui m'avait pas... Il y avait peu de contacts, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui ne parlait pas, il y avait peu de communication. Bien. Donc moi, je me disais, bon, ben, on a juste le deuil à faire. Et qu'est-ce qui m'arrive là encore récemment? Des choses que j'appellerais ça, si vous voulez, des sortes d'attaques, mais qui peuvent nous ébranler dans des choses. Parce que quand on parle de son père, de sa mère, de ses proches, ce sont quand même des choses qui nous ont construits. Et quand on apprend, parce que... Comme ça, par son épouse, etc., des choses difficiles, et qu'il y a des voiles qui sont levées sur d'autres choses, ben, je sais qu'à un moment donné, vous ne savez plus si comment vous vous appelez, quoi. Si ce que sur quoi vous avez fondé votre vie, ou enfin votre vie, votre qu'est-ce qui a été, on va dire, qui fait partie de nous-mêmes, quoi, notre histoire, nos... Est-ce que pourquoi c'est comme ça, quoi? Et donc, c'est des choses assez subtiles, mais qui peuvent, à un moment donné, vous ébranler. Et à ce moment-là, vous n'avez que la main de Jésus pour dire, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et ça peut nous atteindre comme ça peut nous atteindre au travers de notre d'une maladie. Parce que beaucoup de gens ont aussi, même des chrétiens, pensent que ben, ça ne peut pas leur arriver. Ou pensent que... Ils ne peuvent être que dans la félicité, dans la richesse, dans ceci, dans cela. Donc on a besoin absolument de rester debout et d'avoir en plus cette main qui est accrochée. Parce que des fois, il n'y a plus que cette main-là. Même notre cerveau, il n'est plus accroché. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, on dit bien que quand on ne sait plus quoi demander, quand on est tellement faible qu'on ne sait plus quoi faire, le Saint-Esprit est là, cette dynamique qui est en nous, il est là. Il ne nous laissera pas tomber. Et puis enfin, on a, mais ça va un peu avec, hein. Un quatrième don, c'est ce sauf-conduit. C'est quoi le sauf-conduit? Ben, c'est la sécurité. Cette sécurité qui fait qu'il dit à la fin de ce chapitre, au verset, par exemple, au verset... 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut nous dire, halte là, comme on dit dans les films, vous savez, sur la dernière guerre, Auschwitz? Non. Il n'y a pas de... Pour nous, on a un laissez-passer. Bizarre, hein? On a un laissez-passer. Mais c'est quoi ce laissez-passer? C'est un peu, je pourrais prendre une explication pour que vous compreniez un peu dans quelle manière vous avez un laissez-passer. Alors dans mon métier, quand vous venez avec un chèque, pour vous faire payer quelque chose. Peu importe, finalement. Ce qui compte, c'est la provision du chèque. Vous êtes d'accord? S'il n'y a pas d'argent derrière le chèque, on ne payera pas. Ce qui compte, c'est donc finalement celui qui est détenteur du compte. Ben vous, vous avez un chéquier et vous pourrez tirer des chèques sur la Banque du Ciel. Vous avez même une procuration là. Donc quand on regarde la signature, on dit, on ne se pose même pas de questions hein, sur la provision. Vous êtes d'accord? Vous croyez? Ben oui, tout l'argent et tout l'or lui appartiennent. Donc quand vous signez, avec, vous avez non seulement vous êtes, je dirais, vous ne recevez pas un chèque qui est signé, c'est vous qui signez et on dit, ah oui, ce compte-là, c'est très bon, et votre signature, elle est valable. Parce que vous avez, vous êtes les fils, les héritiers. Je ne sais pas si vous mesurez ça, ce que ça veut dire. Donc on a un sauf-conduit qui nous permet de passer. Il n'y a pas de nouveaux obstacles qui vont se d'obstacles de cet ordre-là. Je veux dire pour dire, ben voilà, je suis pas en sécurité. De toute façon, c'est du papier provisoire. Non, vous êtes sûr de cette sécurité. Vous avez une identité. Vous êtes fils et fille de Dieu. Vous avez le don de l'esprit qui vous permet de passer au-delà de votre propre intelligence, au-delà de vos propres, des événements qui vous touchent. Comment parler au Père si j'ai plus de mots, si je ne sais pas quoi lui demander? Le Saint-Esprit est là. Un avocat. Un plaideur. Et croyez-moi, dans la vie, je dirais la vie des affaires, c'est aussi quelque chose que je peux utiliser comme exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucune affaire qui se traite sans qu'il y ait un conseil. Les affaires importantes, je veux dire qu'il y a toujours quelqu'un qui vient dire si juridiquement c'est bon. Et qui vous apporte, si vous voulez, la protection juridique. Mais vous, vous en avez une gratuitement. Parce que ce n'est pas donné. Hein. C'est de l'ordre, par exemple, pour vraiment pour un abonnement de ce genre, pour avoir un avocat à qui suffit de téléphoner pour dire, bon, là, dans cette affaire-là, dans ce litige ou dans cette... transaction, est-ce que tout est bordé juridiquement? Au minimum, c'est 7000 euros par an, pour juste lui passer quelques coups de fil. Et vous, c'est gratuit. Et en plus, vous n'en profitez pas. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous, ils ne téléphonent jamais. Hein. Qui c'est qui téléphone de temps en temps? Ouais, allez. Pour demander conseil, pour dire, bon, là, dans cette affaire, qu'est-ce que je fais? Hein, Patrick? Il y a des fois, on a besoin de téléphoner. Vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Je fais quoi? Donc, n'oublie pas, vous avez un conseiller. Ce conseiller, il est disponible 24 heures sur 24. Ça vous est dit, là? Relisez 1 à 30, ou même 1 à 35, dans Romains 8. Et vous avez un statut. Ce statut, c'est à partir du moment où vous faites ce choix, donc vous êtes debout, vous ne restez pas assis. Vous restez... Si, on pourrait dire qu'il y a quelques-uns qui connaissent bien la parole qui pourraient dire, mais attendez, là j'ai entendu dire que dans Éphésiens au début, il est dit que, chapitre 1 ou 2, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Non? Ça vous dit quelque chose, ça? Mais attention, au chapitre 2, il s'agit de se lever et puis de marcher. Hein, vous êtes d'accord? Bon. Donc c'est vrai que vous pouvez vous reposer en Christ, mais finalement, il nous a fait à son image. Et à partir du moment où vous êtes régénéré, alors là, je me dis un gros mot parce que c'est un mot qui ne fait pas partie de notre lecture. Mais je le lâche quand même. C'est-à-dire que la première partie de Romains 8, c'est l'illustration de la régénération. Mais je ne veux pas l'aborder trop aujourd'hui. Disons que être régénéré, vous comprenez un peu le sens de départ, c'est finalement d'être vivifié, quoi. D'avoir, au-delà de la conversion, qui est un changement de direction, vous êtes d'accord? On change de direction. À partir de ce moment-là, il y a un processus qui s'enclenche, c'est celui de la régénération. Donc là, dans la première partie, c'est une illustration de ce mot, de cette définition théologique. Justice, vous êtes justifié, vous avez un statut, vous avez reçu le don de l'esprit, vous avez une dynamique. Vous êtes plus passif, mais le Saint-Esprit peut vous permettre de sortir de certaines situations bloquées. Vous êtes fils et filles, vous avez un héritage à attendre. On en a parlé cette année aussi de l'héritage. Et enfin, vous avez une sécurité, c'est que vous avez un sauf-conduit qui vous permet d'avancer en toute sécurité. Et on ne peut pas se dresser au travers de votre chemin et vous dire quel est ton sauf-conduit. Ça, c'est le trésor qu'il y a dans Romains 8. Et il est abordable pour chacun d'entre vous. Et finalement, le titre que je mettrai sur ce chapitre de Romains 8, c'est « La toute suffisance de la grâce de Dieu capable de dominer toutes les situations ». Mais si je disais que ça pour le chapitre, ça serait peut-être un résumé finalement trop simple. Parce que, ok, il y a la toute suffisance de la grâce pour dominer toutes les situations. Mais on a besoin de savoir aussi, d'entendre Paul nous dire que le péché, c'est quelque chose qui nous amène à la réalité de la mort et de la séparation définitive de Dieu. On a besoin de savoir qu'on a une terreur en nous d'affronter le jugement de Dieu, qu'on défaille à certains moments et que face à la souffrance, face à des intimidations, quelles qu'elles soient, on n'est pas bien. Qu'on est des fois ignorant et paralysé et qu'on a une impression d'absurdité, qu'on ne comprend pas le plan de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas le détacher de ce que j'ai dit avant, de ce don qu'on a. Vous en avez besoin. Vous avez besoin du statut, vous avez besoin de la dynamique, vous avez besoin de l'identité. Vous avez besoin du sauf-conduit. C'est ça que je veux dire. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai ça, c'est bon. Non, parce que le reste, à certains moments, sera devant vous, vous le verrez, et vous serez tétanisé. C'est pour ça que c'est une telle concentration. Dans ce chapitre-là, Paul nous instruit. Donc on ne peut pas passer à côté. Vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas une lecture, je vais attendre qu'on me l'explique. Relisez-le. Voilà, donc je reviendrai à mon petit personnage. Ne soyez pas que debout. De mettre les mains dans les poches, alors c'est pas interdit, hein, mais je veux dire par là que l'attitude d'avoir les mains dans les poches, il faut la dépasser et il faut lever la main, agripper, tenir et saisir la fidélité de Dieu. Je l'avais dit une fois, ce petit verset « Ayez foi en Dieu » qui a été traduit par « saisissez et tenez la fidélité de Dieu » et qui est plus actif, hein, vous êtes d'accord, plus... Il a tenu Hudson Taylor, pour ceux qui savent qui c'est un grand missionnaire en Chine, qui a eu vraiment, il y a des livres qui ont été écrits sur lui, et c'est vraiment un homme de foi incroyable, qui a vécu entre la deuxième moitié du 19e siècle. Pendant 5 ans, ça a été son verset, on va dire, de sa méditation, quoi. Parce que les défis qui se posaient à lui étaient énormes. Donc, on se tient debout, on agrippe, on saisit cette fidélité de Dieu, qui se traduit par justement ça,